Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans notre nouvel épisode d'Un certain goût pour le noir, le podcast 100% polar de Bipolar. Et aujourd'hui, c'est l'heure de notre club de lecture du mois d'avril. Le club 100 est au rendez-vous. Et avec moi, Julie, Muse Mania Books, Anthony, les livres de K79, Aude, Aude Booking, Nathalie, mes lectures du dimanche. Et puis, on pense aussi à Jean-Michel, roman noir et plus, qui ne peut pas être des nôtres aujourd'hui. Bonjour tout le monde.
Bonjour,
Bonjour,
bonjour.
bonjour. Allez, comme d'habitude, je sais que vous êtes en forme. On a un épisode en deux parties, un sujet, vos coups de cœur, et on a choisi R.J. Elori, l'auteur anglais qui vient d'avoir une nouvelle parution en France, une nouvelle traduction. Au nord de la frontière, c'est chez Sonatine. On connaît certains de ses chefs-d'œuvre, hein, Seul le silence, Vendetta ou bien encore Les anges de New York. Alors j'ai parlé de chefs-d'œuvre, mais est-ce que vous, le club, vous êtes d'accord avec moi? Allez, qui veut commencer? Elori, c'est plutôt un auteur noir hein, qui dépeint des personnages, des sociétés en plus de ses enquêtes.
Oui, c'est ça. C'est plutôt du roman noir. Moi, je dirais du roman d'ambiance noire, avec toujours des personnages très très forts et très travaillés. C'est ce que j'aime particulièrement chez lui. Alors, en dehors des thématiques, etc., si on veut parler d'abord de l'écriture, moi, je trouve que c'est une écriture qui est toujours tout en introspection. Qui est très poétique, autant dans ses descriptions que dans l'intimité de ses personnages. Alors pour moi, c'est le plus british des auteurs américains, parce que si on ne sait pas qu'il est anglais, honnêtement, on aurait tendance à penser que c'est un auteur américain, tellement il connaît bien les États-Unis. Alors il a une prédilection pour les années 60. Il connaît extrêmement bien le territoire parce que dans son dernier livre, moi j'ai ouvert une carte pour lire son roman, pour voir s'il se plantait pas dans les routes, le nom des routes, le numéro des routes plutôt,
Ah oui.
comment on va d'un état à l'autre, etc. Parce que moi j'aime bien que ce soit précis et c'est très très précis. Il n'y a pas de plantage. Je suis assez surprise à chaque roman de voir comment il arrive en fait à se plonger et dans la culture américaine, dans la mentalité, comment il navigue sur les territoires avec beaucoup de ouais avec une grande dextérité. Et puis ces personnages ont toujours quelque chose à nous apprendre, parce que c'est pas il y a toujours une enquête, effectivement, quelque chose qui se passe. Mais ces personnages, ils ont toujours à nous apprendre quelque chose de nous-mêmes. Et je crois que c'est ce que j'aime le plus dans ces romans.
Ouais, il dépeint, il met en scène en tout cas des gens dont on se souvient longtemps. Anthony, Nathalie, Julie, est-ce qu'il y a un roman d'Elory qui vous a marqué, Anthony? Oui.
Ah, un roman, ouais, bah, Seul le silence, forcément.
Pareil.
Forcément, je pense que beaucoup de gens l'ont découvert par celui-ci. Après, j'avais Le Chant de l'Assassin, que j'ai beaucoup aimé aussi, qui fait partie pour moi du haut du panier de cet auteur. Parce que justement, d'ailleurs, bah, je vais y aller pendant que j'y suis.
Vas-y.
Justement, moi, j'ai une relation assez particulière avec lui. Donc, j'adore l'auteur. C'est un mec super sympa, enfin, quelqu'un qui sait très bien promouvoir sa littérature dans les salons. Enfin, c'est vraiment un mec génial à rencontrer une fois dans sa vie, au moins une fois. Mais par contre, j'ai une relation assez particulière sur ses livres, parce que j'ai dû en lire, je crois, j'ai regardé avant l'émission, j'ai dû en lire 8. Et c'est, comment dire, c'est soit tout blanc, soit tout noir. C'est-à-dire que c'est soit je suis très déçu, soit c'est un chef-d'œuvre. C'est-à-dire que j'ai pas beaucoup de demi-mesures avec cet auteur. C'est-à-dire que pour moi, il a créé vraiment des livres qui sont pour moi des chefs-d'œuvre de romans noirs, et d'autres qui m'ont énormément déçu.
Alors,
Donc, j'ai.
lesquels sont des chefs-d'œuvre et lesquels t'ont déçu et pourquoi?
Alors, je te disais, donc, Seul le silence, Le Chant de l'Assassin, que je reprenne. Attends, je vais reprendre une liste sous les yeux, s'il ira mieux, pour me souvenir de tout. J'ai eu des déceptions. Alors, en fait, je trouve que, en y réfléchissant un petit peu, je me suis rendu compte qu'il me déçoit dès qu'il essaye de partir dans l'extraordinaire. Dès qu'il essaye de sortir d'une histoire réaliste, classique, avec des personnages, tout ce qu'il y a de plus standard, hein, des personnages comme nous en fait, hein, je trouve que dès qu'il essaye de faire quelque chose d'extraordinaire, c'est là où il se perd un petit peu, et c'est toujours un petit peu plus compliqué. J'avais Le Carnaval des Ombres, j'ai eu beaucoup de mal. Le jour où Kennedy n'est pas mort.
Ouais.
Alors, moi, j'ai adoré.
Ouais, non,
Oui,
non, c'est,
pareil.
enfin, moi, je me suis un petit peu ennuyé. Et Omerta, je me suis emmerdé. Ouais, excusez-moi, je me suis embêté. Non, mais vraiment, et en plus, j'adore l'auteur. Hein. Enfin, vraiment, c'est-à-dire que j'y mets de la bonne volonté. Hein. Donc, c'est pas ça. Et après, à côté de ça, bah, Seul le silence, Le chant de l'assassin, qu'est-ce qu'il y avait d'autre?
Papillon de nuit.
Ouais, Un papillon de nuit, je l'ai pas lu, mais voilà. Une saison pour les ombres, celui de l'année passée était très bien. Voilà, après, si, c'est vrai qu'il y a eu des. Il y en avait certains qui ont été un petit peu pour moi moyens. Les Anges de New York, par exemple, voilà, c'est un bon polar, quoi. Mais voilà, après Les Assassins, j'avais pas trop aimé non plus. C'est vraiment, voilà, c'est en dents de scie. Mais par contre, voilà, quand ça marche, par contre, c'est vraiment génial. Voilà. Et après, je vais pas redire ce qu'a dit Aude, c'est vraiment la nuance des personnages. Des
Bon.
personnages qu'on soit en. Dans lesquels on se reconnaît, soit qu'on connaît. Enfin voilà, on a vraiment l'impression de vivre les histoires avec eux, quoi. Et
OK.
ça, voilà. Bon, donc c'est un génie du roman noir, plutôt rural. Voilà. Quand il reste aussi un petit peu dans le rural, je préfère. C'est là où il est le meilleur, je trouve.
OK. Nathalie, Julie, c'est un avis que vous partagez? Quels sont les romans d'Ellory qui vous ont fait kiffer?
Je suis un petit peu du même avis qu'Anthony, même si j'ai beaucoup moins d'expérience parce que je ne suis que dans mon troisième.
Et plus
Donc,
jeune.
c'est-à-dire le, oui, c'est ça, voilà, je suis une petite jeune dans la découverte de, ça change. En fait, je l'ai découvert avec Le Chant de l'Assassin, qui est vraiment un roman que j'ai adoré, mais vraiment adoré parce que, ben, justement, pour toutes les qualités que Aude a citées tout à l'heure. Et c'est vraiment un roman dans lequel il faut prendre le temps. Donc, je trouve qu'un Ellory, quand on a 10 minutes devant soi, parce qu'on est dans la salle d'attente d'un médecin ou quoi, c'est pas le moment. Il faut pas. J'ai un peu l'impression que c'est un roman, enfin, c'est un auteur qu'il faut prendre le temps d'apprécier. Et donc, se poser et se dire, là, maintenant, j'ai un peu de temps pour rentrer dans son imaginaire, dans son monde. Puis j'ai lu le jour où Kennedy n'est pas mort, que j'ai abandonné. Donc je n'ai pas réussi à rentrer dedans. C'est voilà, j'étais déçue de laisser tomber, mais il y a un moment, bon voilà, il faut pas, quand ça va plus, il faut pas insister. Par contre, ben, je suis dans son dernier, il me reste 100 pages. Cassé, donc et j'aime vraiment beaucoup. J'ai un peu l'impression d'être dans un polar un peu. Je voyais bien un truc avec un Clint Eastwood toujours posé qui vit son truc, qui arrive à nous mettre une ambiance et une envie de tourner les pages, alors qu'en fait il se passe pas non plus énormément de choses. C'est hyper calme, pas forcément lent, mais on est dans l'attention. Et vraiment, oui, c'était ça. C'était un peu cette impression d'un film avec Clint Eastwood. Et donc, globalement, j'ai un bon avis, même s'il est quand même assez limité, et je sais qu'il faut que je découvre Le Chant du silence. Il m'attend gentiment, dans mon immense pal.
Ouais, c'est un auteur qui prend son temps un petit peu
Oui, c'est
parfois.
exactement.
Hein,
Ah oui.
on goûte un petit peu l'ambiance, tout à fait dans Seul le silence, c'est tout à fait ça.
Et il faut
Julie,
prendre
qu'est-ce.
le temps aussi. C'est-à-dire qu'en tant que lecteur, elle a vraiment raison. Et c'est vraiment important à préciser pour quelqu'un qui veut se lancer dans un de ses livres. Voilà, il faut pas lire ça comme une aventure à 2000 à l'heure. Il faut vraiment prendre le temps, l'ambiance, du roman noir, vraiment, quoi.
Ouais, être un petit peu au calme. Julie, qu'est-ce que t'en penses, toi, d'Elory?
Ben moi, c'est plus comme Aude, il m'a jamais déçu pour l'instant. J'avoue, j'ai pas tout lu, mais par exemple, Seul le silence, ça a été vraiment mon déclic en matière de littérature noire. Quand il est sorti, que je l'ai lu, ça a été vraiment le coup de cœur absolu. Donc, j'essaye quand même de le suivre à chaque parution, mais voilà, on n'a pas non plus des journées de 48 heures. Moi, par contre, le jour où Kennedy n'est pas mort, j'ai beaucoup aimé. C'est une période de l'histoire que j'aime beaucoup, donc c'est peut-être aussi, voilà, c'était pas des risqués pour lui, pour moi. J'ai son dernier que je me suis procuré à la Foire du livre de Bruxelles parce qu'il était présent, malgré les quais du polar qui avaient lieu en même temps. Donc j'étais bien contente. C'est vrai qu'il est adorable. Chaque rencontre, voilà, c'est comme si on revoyait un ami en fait. Et par contre, son précédent, c'était une saison pour les ombres. Et celui-là aussi, il m'avait mais vraiment captivé de A à Z. C'était aussi bien l'ambiance que que les descriptions des lieux. Donc voilà, j'aime bien me les acheter dès leur parution, mais j'aime bien aussi faire durer le plaisir. Et donc le dernier, je vais encore attendre un petit peu avant de me pencher dedans.
D'accord. Ok. Bon, vous êtes tous et toutes plus ou moins dithyrambiques quand même, hormis quelques déceptions chez Anthony. C'est une
Non, pas que
valeur
chez
sûre.
moi,
Hein.
hein. Pas que chez moi.
Oh,
Parce
pas
que
que chez toi.
s'il écoute, il va se dire, non, Anthony, c'est pas bien ce qu'il fait. Non, non, Nathalie est un petit peu avec moi aussi. Je
Oui,
balance.
voilà.
Oh, t'as connu
Non,
des
mais.
déceptions, toi? Et Lauriane?
Non, j'ai regardé. Moi, j'en ai lu sept. Alors, je n'ai pas lu tout ce qui parle de mafia.
Ah ouais.
Bon. Non, mais
Parce
tu
que,
alors,
t'as...
la
Ouais.
mafia, j'ai un peu de mal avec ce sujet. Il y a des sujets comme ça, la Russie, la mafia, c'est vraiment compliqué pour moi. Donc, j'en ai lu sept. J'ai mis 5 étoiles aux sept. Donc, j'ai lu Papillon de nuit, Seul le silence, Le carnaval des ombres, Le jour où Kennedy n'est pas mort, Le chant de l'assassin, Une saison pour les ombres, Au nord de la frontière. J'ai mis 5 étoiles à tous, sauf au dernier 4. Donc, je me suis noté qu'il fallait que je lise Mauvaise étoile et un cœur sombre, absolument. Je les ai dans ma palle.
La mauvaise étoile, il paraît que c'est génial, ouais. C'est un de ses
Ouais.
meilleurs.
Et justement, moi, quand je le lis, je ne comprends pas pourquoi ces bouquins ne sont pas adaptés au cinéma, quoi. Au cinéma ou en série. Je ne comprends pas. Parce qu'il y a vraiment tout. Il y a matière avec la profondeur des personnages, il y a matière avec la finesse des descriptions, il y a du fond, enfin. Ouais, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi personne s'est emparé de ces bouquins pour les mettre à l'écran. Parce que ça s'y prête complètement, en fait.
Oui, c'est vrai, c'est facilement transposable. C'est vrai que, surtout que, au point de vue des descriptions et tout ça, déjà, c'est hyper complet. Donc, pour le scénariste, le travail est déjà pré-mâché aux trois quarts. Donc,
Est-ce que
bah.
c'est sa lente, enfin, sa lenteur? Est-ce que c'est le fait qu'il prenne son temps, que ce soit pas tout de suite dans le vif du sujet, que ce soit pas nerveux?
Oui, c'est pas, on n'est pas dans les films, enfin dans les séries à la mode qui vont à 2000 à l'heure aujourd'hui. Mais pourquoi pas, après, utiliser l'ambiance, l'univers sur tout ça, quoi. Quitte à créer d'autres énigmes, d'autres intrigues dans l'histoire pour faire avancer un peu plus vite sur une série, par exemple. Je trouve qu'il y a quand même un potentiel, quand même.
Parce que si on compare la soi-disant lenteur, parce qu'aujourd'hui on veut que tout aille vite et bam bam bam, voilà, il faut faire des trucs, il y a grand spectacle, avec ça tire dans tous les sens toutes les 2 minutes. Mais si on analyse l'œuvre de King, par
Bien
exemple,
sûr, ouais.
enfin en
Bien sûr.
termes de voilà, qui prend son temps, lui c'est pareil. Enfin, je veux dire, ma fille dirait, alors il va te décrire comment il ouvre la porte, comment il la porte, qu'est-ce qu'il y a derrière la porte, on n'en
Comment ils
sort
ont peint
pas.
la porte?
Ouais, c'est ça. Mais c'est un peu pareil chez Elory, il prend son temps, mais tout ça fait partie de l'ambiance. Et donc, du coup, je
Oui,
sais qu'il y
c'est pas forcément une
avait.
raison, tu as raison. C'est pas forcément une excuse,
Bah,
quoi.
voilà, ça peut faire d'excellents films d'ambiance où à la fin, en fait, il nous reste quelque chose, parce qu'il y a quand même beaucoup de films qu'on regarde où à la fin, il nous reste rien, quoi.
Mais la différence peut-être avec le King, c'est que le King, il y a quand même toujours un sujet qui passe quand même relativement bien en image. On va dire ici, il y a quand même énormément d'introspection
Oui, c'est pas
et
faux.
beaucoup de choses qui font que, en tout cas, quand on est immergé dans la lecture, effectivement, ça nous pose plein de questions. Je trouve que la justesse des sentiments est quand même très très forte, mais il n'y a pas beaucoup de dialogue, il n'y a pas énormément d'action pure et dure, il y a quand même beaucoup de réflexion et d'introspection, ce qui est plus difficile, à mon avis, à
Peut-être, ouais.
imager.
Bon,
Ouais,
pourtant, c'est vrai
peut-être.
que moi, j'ai vu des comparaisons avec True Detective ou Top of the Lake. Qui sont des séries qui
Complètement.
prennent aussi leur temps. Hein. Il n'y a pas beaucoup de course-poursuite.
Non.
Ça pourrait faire. Et sur les adaptations, il y a une très bonne BD de Seul le silence par Fabrice Gollin et Richard Guérino qui est sortie il y a 3 ans maintenant chez Phileas, qui était vraiment très chouette pour le coup. Je tiens à le signaler. On va refermer ce dossier, Elory, vous avez compris. Nous, on aime beaucoup. Et puis, on va passer au conseil de lecture des uns et des autres. Et on va commencer avec toi, Nathalie, et avec Nicolas Lebel, son nouveau Peine perdue. On va retrouver pas mal de choses.
Je vois Anthony qui me fait les gros yeux parce que je pense que il
Tu
aurait
m'as
bien aimé pouvoir en parler aussi.
exactement. Tu as tout compris dans mon regard.
Voilà. Mais je vais.
Oh, tu vas
Tu
bien le faire, donc
n'hésiteras
ça va, ça me
pas.
rassure, mais
Tu n'hésiteras
je suis pas inquiet.
pas à intervenir et à rajouter ton ressenti. Mais moi, je trouvais ça important de parler de ce bouquin, parce que Nicolas Lebel, finalement, on le connaît beaucoup pour sa série Merlige, et puis pour sa trilogie de ces dernières années, où c'est quand même un auteur qui fait un peu dans le léger, pas mal d'humour. Et en fait, ici, il est vraiment dans un registre très différent. Donc, ça se présente d'une manière déjà très originale, parce que ça c'est sous format d'une pièce de théâtre, en fait. Et donc, plus particulièrement, une tragédie qui va se jouer en cinq actes. Donc, alors, bon, bah, quand on dit tragédie, a priori, on sait bien que voilà, la pienne, il y a fort peu de chances qu'elle soit au rendez-vous. Après, bon, quand on connaît l'auteur, on se dit pourquoi pas. Hein, donc, on y va quand même en vérifiant de temps en temps sur la couverture si tragédie n'a pas disparu. Et en fait, il va nous raconter l'histoire de Théo, qui est un jeune homme qui est incarcéré parce qu'il a renversé une jeune femme en voiture. La jeune femme est décédée et lui était sous l'influence de l'alcool. Donc, il est jugé, il est condamné, il a une peine de prison à effectuer, mais c'est un jeune homme tranquille, sans histoire. Et donc, bah, forcément, on se rend très vite compte qu'il n'a pas du tout sa place en prison. En plus, c'est un vrai gentil. Et donc il est un peu, il est victime en prison d'un parrain de la mafia qui passe son temps à lui casser la figure. Ce mafieux-là, il est en prison avec zéro espoir de libération. Il a vraiment rien à perdre. En plus, il y a une grosse histoire qui circule à son sujet, qui prétend qu'il a doublé ses partenaires lors du dernier cas. C'est que donc, quelque part, il y a un magot qui est planqué. Donc il y a cette histoire que les autres prisonniers aimeraient découvrir pour savoir où est l'argent. Et on a aussi un dernier personnage qui est le mari de la personne que Théo a renversée et qui vient régulièrement voir Théo en prison. Alors, de prime abord, c'est pour des raisons un peu pédagogiques, on va dire. Lui a besoin de rencontrer Théo pour s'entendre raconter l'histoire de l'accident de manière récurrente. Et en échange, il promet à Théo qu'il témoignera pour sa libération conditionnelle. Alors, on se rend vite compte que finalement, il y a plus de faux-semblants qu'il n'y paraît. Que tout le monde joue un petit peu un rôle, que finalement, l'univers carcéral, c'est quand même un endroit où il y a énormément de jeux de pouvoir, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur lesquelles on ferme les yeux, que ce soit les détenus ou même les gardiens, que finalement, l'argent achète tout, que toutes les promesses qui sont faites dans ce milieu, c'est des promesses en carton. Et donc, finalement, nous, lecteurs, on a énormément de peine pour Théo. Et donc, c'est vraiment, comme je disais, ce qui est surprenant, c'est la violence du propos et alors la noirceur de l'écriture. Et une chose qui est très, très importante, j'ai trouvé, c'est la richesse de la plume. Donc, c'est vraiment pas un bête français, c'est vraiment une écriture très travaillée, très immersive. On est vraiment plongé dans cet univers, et on a énormément de peine pour Théo. Et donc, c'est impossible pendant la lecture de ne pas avoir froid dans le dos ou de pas avoir le cœur brisé. Et finalement, on a beau se dire c'est une tragédie, il vaut mieux pas aller jusqu'à la fin. On a envie de savoir, on a envie d'y aller. Et puis, de toute façon, tragédie, il y a mille façons de mal se terminer. Et donc, la question, c'est laquelle l'auteur aura choisi. Et donc, pour moi, c'est vraiment un très, très, très grand roman.
C'est beaucoup plus sombre hein, que d'habitude.
Oui,
Hein.
vraiment, vraiment. Il y a quasiment pas d'humour. Peut-être un peu de cynisme, parce que c'est un peu sa patte aussi, mais ça n'a rien de drôle, quoi.
Ouais, plus de cynisme, c'est ça.
Ouais.
Et les femmes jouent un rôle très important aussi dans
Oui, énormément, oui. Parce qu'on va
les personnages
suivre
secondaires qui vont jouer un rôle très très important dans le.
la petite amie de Théo qui, elle, forcément, est restée libre. Et la femme de ce mafieux qui est obligée de se cacher parce que comme il y a cette histoire de magot, on se dit elle doit savoir où il est et donc elle a un peu toute la terre à ses trousses, quoi.
Bon, il y a de la
Donc
mafia, donc
finalement,
c'est pas pour Aude.
Bah peut-être. Ce qui est très
Ouais, c'est pas une
intéressant
mafia.
aussi, c'est qu'en fait, on se rend compte mais que quand il y a un enfermement, et ça, c'était quand même très, très fort comme passage, finalement, c'est pas une vie qui est brisée. Parce que ce sont des destins qui sont brisés quand quelqu'un se retrouve en prison, pour ici, comme Théo, un peu une bêtise, on va dire, qui a eu des conséquences dramatiques, ou même pour des choses plus sérieuses. Mais finalement, c'est toute une famille, tout un entourage, des amis. Donc, c'est plein de vies brisées. Une incarcération, c'est pas juste le prisonnier qui a sa vie brisée, en fait. Et ça, c'était hyper touchant parce que c'était vraiment, c'était très, très bien décrit, je trouve.
C'est aux éditions du Masque, si
Et
je ne
et
dis pas de
tout le monde
bêtises.
manipule tout le monde et on sait pas qui, enfin, on sait pas qui
Exactement.
manipule l'autre et tout le monde a ses secrets et beaucoup de surprises en fait. On s'attend à, on imagine que ça va se dérouler comme on pense du départ et finalement pas du tout en fait. Mais
Jamais
enfin,
avec
Nicolas Lebel, c'est
l'auteur.
vraiment un auteur que si les gens qui ne l'ont pas lu, il faut vraiment qu'ils s'y mettent parce que c'est un auteur qui mérite vraiment d'être beaucoup plus connu et qui a une qualité d'écriture et d'histoire globalement, enfin, qui a un véritable talent d'écrivain, quoi.
Exactement. Mais hormis ce petit mafieux un peu. C'est probablement un livre pour Aude, moi je dirais, parce que justement,
Non, mais il n'y
la
a pas lieu.
qualité du français, ça devrait te plaire.
Mais ça me donne envie, hein. Ça me donne envie. Moi, je n'ai jamais lu Lebel, jamais.
Oh, je ne sais même pas
Alors,
pourquoi on
ouais,
t'invite.
oh, ouais, je sais. Ouais, je me demande encore ce que je fais là. J'en ai dans ma palle, mais c'est vrai que ce dernier, je me suis dit, ah tiens, il n'y a pas d'humour, ça a l'air très très noir. Le postulat de départ m'attirait, donc ouais, ça me donne envie.
Ok. Bon, on va retenir ce Nicolas Lebel. Anthony, toi, tu nous proposes un auteur qui est aussi journaliste, producteur de documentaires, auteur de vulgarisation scientifique. C'est La Conjuration de Dante de Fabrice Papillon.
Et qui est hyper sympa aussi.
Oh, bah, et en plus, ouais.
Ce qui est aussi une qualité de Nicolas Lebel
Beaucoup
qu'on n'a pas précisé.
de
Ce sont des gens aussi comme Hergé et Laurie qui sont tous des gens à vraiment à rencontrer en salon parce qu'ils méritent vraiment le détour, quoi.
Bon, on verra si les autres conseils, ce sont des auteurs et autrices sympas. Alors, ce Fabrice Papillon, du coup.
Donc là, c'est la conjuration de Dante. Donc, pour l'histoire, les tombeaux des plus grands scientifiques de l'histoire qui sont profanés par une équipe de professionnels, on pense, un petit peu de partout en Europe, ils volent le cerveau des scientifiques. Voilà. Ils vont profaner les tombeaux pour prendre les cerveaux des scientifiques. Et en même temps, il y a aussi des meurtres inexpliqués en parallèle. On devine en fait rapidement qu'on a affaire à un énorme complot, à une société secrète. Et il faut donc trouver qui fait ça et pour quelles raisons ils font ça. Voilà. Et donc ça, c'est la commissaire Vernet qui est chargée de l'affaire. Et donc Louise Vernet, c'est une commissaire qu'on avait déjà rencontrée dans son précédent livre qui s'appelait Aliéné. Et moi, j'étais assez content de la retrouver parce que c'est une femme qui est très forte, j'aime bien, très forte, déterminée, qui a beaucoup de répartie, parfois un peu trop. Enfin, disons que c'est le genre de personnage qui a des supérieurs, des gens qui lui donnent des ordres. Elle doit suivre les ordres, mais bon, elle en fait qu'à sa tête, quoi. Voilà. Donc, elle a une idée, elle fonce. Parfois, ça marche et puis parfois, ça pose problème. Elle a un certain flair, c'est une très bonne enquêtrice, mais elle renverse tout sur son passage, quoi. Voilà, ça c'est la définition de Louise Vernet. Donc c'est déjà assez intéressant dans le livre de suivre ce personnage-là. Pour ce qui est de l'enquête en elle-même, alors c'est assez complexe dans le scénario. Il y a plein de pistes qui sont suivies. Ça part un petit peu dans tous les sens. En plus, l'aventure, elle fait appel à des éléments, des éléments, des connaissances en histoire, la grande histoire avec un grand H, et de la science aussi, beaucoup d'éléments de science. Enfin, en gros, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de choses techniques. Mais ce qui fait la qualité des livres de Fabrice Papillon, parce que moi, c'est le quatrième que je lis de lui, c'est qu'en fait, on n'est jamais perdu. Moi, j'ai aucune connaissance ou très peu de connaissances en histoire. Je me bats d'ailleurs pour essayer de remédier à ça, mais j'en ai pas beaucoup. En science, tout pareil. Et pourtant, j'arrive à suivre l'histoire, à me passionner par l'histoire et à m'éclater dans l'histoire. Donc voilà, c'est vraiment, il arrive à vulgariser le sujet et ça fonctionne très bien. C'est même, on va dire, le genre de livre que quand vous êtes en pleine lecture ou à la fin de la lecture, vous avez envie d'aller sur Wikipédia ou sur des sites un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus pointus pour essayer de vérifier les infos, quoi. Et après, vous creusez le sujet et c'est vraiment super intéressant parce que ça, on apprend beaucoup de choses. En fait, lui, il nous ouvre les portes et après, ben, c'est nous qui allons fouiller un petit peu, quoi. Voilà. Et on se rend compte en plus, quand on fait ça, que ben, tous les éléments qu'il nous donne, ben, ils sont vrais, en fait. Donc, il y a énormément de choses, bien sûr, surprenantes. Il va surtout sur des choses surprenantes. Et donc, on apprend des choses ben, sur l'histoire, sur la science, des choses incroyables qui méritent vraiment d'être fouillées, quoi. Voilà. Donc, c'est du divertissement, hein. C'est une course-poursuite à travers le monde. On passe par les différents monuments en Europe. Il y a de l'action tout le temps. On s'ennuie jamais. Ça va à 100 à l'heure. Mais en même temps, ben, les thèmes, ils sont vraiment approfondis, quoi. Voilà. On sent que Fabrice Papillon, il a vraiment beaucoup travaillé, qu'il s'est vraiment documenté avant d'écrire son histoire. Voilà. Donc,
Yes.
c'est passionnant, instructif. Voilà.
En
Et.
plus, ouais, vas-y,
Oui.
vas-y. Non,
Non, non,
vas-y, je
vas-y,
t'en
vas-y.
prie. Non, en plus, il y a des personnages récurrents, si j'ai bien tout compris.
Oui.
Ah oui, Louise Vernet.
Oui, Louise.
Oui. C'est-à-dire que Louise Vernet, elle était dans le précédent Aliéné. En
Et
fait,
dans Le Dernier Hiver.
il a fait quatre livres, enfin quatre thrillers, parce qu'il a écrit d'autres choses, mais en thriller. Et les quatre marchent en diptyque. C'est-à-dire que les deux premiers, c'est les mêmes personnages, et les deux deuxièmes, enfin les deux deuxièmes, ça veut rien dire, mais, enfin les seconds, pareil, voilà. Voilà. Vous comprenez quoi. Voilà. Et
Mais dans
donc,
Le
moi,
Dernier
je lui
Hiver,
ai.
c'était déjà pas elle?
Dans quoi, excuse-moi?
Dans
J'ai pas
Le
entendu. Dans
Dernier
tout
Hiver.
premier. Non, normalement, il n'y a que
Ah non, c'était
Aliéné.
Marc Brunier,
Ouais, non,
effectivement.
non, non, non. Et en plus, enfin voilà, je ne vais pas trop en dire, mais c'est vraiment des diptyques. Et ce sera que des diptyques, les deux. Et donc, je l'ai vu dans un salon dernièrement, parce qu'on se voit assez souvent, et je lui ai fait la remarque, en fait, et il a apprécié la comparaison. Je lui ai dit qu'il était un petit peu le Dan Brown français, en version un petit peu plus pointue, je dirais. Voilà. Ça fait un petit peu
Ah
plus.
oui,
Voilà, un petit
parce
peu
que
plus
c'est
fouillé, quoi.
pointu, hein. Ouais, c'est
Hein?
pointu.
Hein?
C'est
C'est
pointu.
ouais, c'est pointu, mais c'est vraiment accessible à tout le monde, par contre. Moi, j'ai trouvé, voilà, moi, je suis pas. À aucun moment, j'étais perdu. Mais vraiment comme un Dan Brown, mais c'est aussi efficace, mais peut-être un petit peu plus technique, ouais. Donc, en gros, si vous aimez tout
Encore
ce qui est
mieux.
aventure et. Comment?
Encore mieux.
Voilà, c'est ça. Et donc, en gros, que si vous aimez tout ce qui est aventure ésotérique, vous allez adorer.
Bon,
Moi,
là,
il est
pour.
prévu pour le mois prochain.
Ouais.
Moi aussi, c'est prévu.
Moi aussi, je sais pas quand, mais c'est prévu.
Quand j'aurai 3 jours de disponible, parce que je pense, enfin, je sais pas si tu confirmes, Anthony, mais moi, j'avais commencé à lire à un moment où c'était pas le moment, clairement. Et c'est pas un livre qu'on fait traîner sur 15 jours, quoi. Faut lire tous les jours et sur un temps
Eh
assez.
ouais. Ouais, histoire
C'est ce que je disais,
de.
ça part vraiment dans tous les sens. Donc, si tu es pas attentif ou attent ouais, attentive, tu ouais, s'il faut bien se.
Ouais, histoire d'être bien au clair. Ok, pour cette conjuration de Dante, donc de Fabrice Papillon. Julie, tu nous as rapporté une autrice belge, Comme si de rien n'était, de Barbara Abel. Elle produit un livre tous les 2 ans, et là, bah, c'est l'heure du nouveau Barbara.
J'ai eu la chance avec Nathalie de la rencontrer en entretien privilégié, on va dire, le jour avant sa sortie de Comme si de rien n'était.
Entre
Ça a
Belges.
été, sans l'avoir lu donc, mais ça a été hyper instructif parce que voilà, elle a su donner l'envie en tout cas de le découvrir. Moi, c'est vrai que ça a fait de nombreuses années que je la suis. Aussi, un peu comme Hergé Ellery, un peu celle qui m'a donné envie de lire du thriller psychologique. Donc ici, on est dans une banlieue assez huppée, avec des belles maisons, des belles pelouses, les voitures qui vont avec. Et c'est là que habitent Adèle, son mari Bertrand et leur fils Lucas. Alors ils ont une vie somme toute banale, bien aisée. Et un jour, en allant chercher son fils au cours de solfège, elle rencontre le nouveau professeur de Lucas et celui-ci a l'air l'appelle Marie, alors que c'est Adèle. Et semble la connaître. Et elle prétend ne pas justement connaître cet homme. Et donc, ça part là-dessus. J'en dis pas plus pour pas troubler le suspense, parce que c'est vraiment des petites touches comme ça qui font que l'ambiance est mise, que l'histoire est lancée. Il a été dévoré, je crois, en 2, 3 jours, parce que ben, une fois qu'on est dedans, on s'y plaît vraiment. La plume de Barbara est toujours aussi fluide, aussi agréable. Elle ne part pas dans des élucubrations ou des passages à 15 lignes qui, en soi, ça aurait pu être résumé en une. Voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce bouquin parce que, comme à chaque fois aussi, elle prend des personnages vraiment ordinaires qu'on peut rencontrer dans la rue ou être nos amis, nos voisins, et elle leur fait vivre, mais alors un cauchemar terrible voilà, on ne voudrait absolument pas connaître. Et de cette banalité, il en ressort chaque fois quelque chose de terrible et de façon totalement originale, sans être de l'original vraiment dans le bon sens, pas dans le sens où ça serait
Invraisemblable,
voilà
c'est
invraisemblable.
pas ouais.
Et c'est ça que j'aime beaucoup chez elle, de passer de l'ordinaire au cauchemar et en se disant ben en fait ça pourrait très bien se passer pour nous. Et encore une fois, elle a su me le faire dévorer en très peu de temps. C'est vrai qu'il y a eu certains de ces livres où que j'avais moins apprécié pour diverses raisons, mais celui-là, c'est du grand cru.
Okay. C'est
Super, bonne nouvelle.
placé.
Je confirme.
Tu confirmes, Nathalie, tu l'as lu
Oui.
aussi? Ok.
Ah, il faut que je m'y mette alors, parce que moi, j'en ai lu que deux, je crois, d'elle. Et à chaque fois, ça a été des terribles coups de cœur, des choses terribles.
Avec
Je sais pas
sûrement
pourquoi,
derrière
je
la
sais pas pourquoi
haine.
je l'ai pas plus
Oui,
lu,
derrière
je
la
sais pas.
haine. Et les vivants
Ah
autour.
ouais, Les
Mais
vivants
mon
autour, magnifique.
Dieu.
Moi, c'était Derrière la haine et Les vivants autour que j'ai lu. Les
Voilà.
deux, c'était incroyable.
Et en fait, le remake américain de Derrière
Derrière
la
la haine.
haine, le précédent film qui avait été fait par un réalisateur belge sous le nom de Duel, ici sort le 1er mai en salle en Belgique, avec Jessica Chastain et Anne Hathaway. Donc, ça va, on a quand même du lourd, quoi.
Ouais, mais j'ai peur que ce soit pas aussi puissant que. Enfin, le livre était tellement
Ah oui,
puissant.
ça, enfin.
Enfin,
Mais franchement,
ils peuvent pas
là,
faire l'histoire complète,
le
quoi.
film belge, malgré une fin un peu différente,
Ouais.
était quand même aussi incroyable, parce que là, on retrouvait vraiment l'ambiance oppressante. Donc, voilà, j'ai quand même hâte de voir le film. Et oui, c'est ça. Enfin, je pense que tout lecteur qui aura lu Derrière la haine, enfin, peut n'être que surpris et positivement, en tout cas.
Ok, bah écoutez, c'est placé pour ce Barbara Abel. Aude, on termine avec toi. Alors, Aude, tu étais déjà dans l'anticipation, la science-fiction la dernière fois avec Obsolète de Sophie Loubière. Et puis bah là, tu es dangereusement en train de glisser vers les littératures de l'imaginaire, puisque tout est sous
ouais.
contrôle de Christopher Bouix, nous parle du futur.
Et ouais, moi je continue ma découverte, je suis dans le futur, plus dans le passé. Je viens de terminer Benjamin Fogel, j'ai lu Christopher Bouix. Je suis épatée par autant d'imagination. Alors là, ce bouquin, ça a été un pied de lecture, mais alors un truc de dingue. Je me suis dit, mais alors c'est un peu dans le même principe que Sophie Loubière, c'est-à-dire que c'est de l'anticipation, mais positive, entre guillemets. Enfin, ça a des consonances positives, parce qu'évidemment, c'est pas aussi positif que ça, mais c'est une critique assez acerbe de l'injonction à être heureux à tout prix, comme le font en fait tous les livres de développement personnel que je ne supporte pas, parce que j'ai toujours l'impression en fait qu'on nous explique comment être la meilleure version de nous-mêmes. Donc là, c'est un peu ça. C'est un monde, donc on est en 2084. C'est pas innocent, hein, qu'on soit en 2084, puisqu'il y a un petit clin d'œil à 1984. Et on est dans une société où, en fait, pour évoluer dans sa vie personnelle ou dans sa vie professionnelle ou même dans l'endroit où on habite, le métier qu'on fait, etc., on a un indice de bonheur. Et cet indice de bonheur, il est calculé en fonction de ce que vous postez sur les réseaux sociaux via une application qui s'appelle Happy App. Bon. Donc, quand vous avez un indice de 5, ben vous avez grosso modo droit à rien, vous vivez pas au centre-ville et vous avez une vie un peu pourrie. Et quand vous avez un indice de plus de 7, ben vous pouvez vous rapprocher du centre, vous pouvez avoir une maison sympa, vous pouvez aussi avoir le droit d'être parent. C'est quand même intéressant puisqu'on est dans un monde où, en fait, voilà, les débiles et ceux qui ne sont pas très actifs sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas le droit d'être parents. Et donc, en fait, tous les jours, pour cultiver cet indice et le faire grandir, il faut poster sur les réseaux des images de soi avec des hashtags, des moments de vie. Qui sont évidemment calculés, hein, une balade au parc, un oiseau, enfin tout et n'importe quoi. Et donc il y a un couple qu'on suit qui s'appelle Juliette et Néo, qui ont donc respectivement des indices de bonheur de 7,2 et 7,9, qui s'installent donc en plein centre-ville, dans une belle maison, etc. Et pour parvenir à comment on dit, j'ai le mot en anglais mais pas en français,
Tu fais comme Jean-Claude Van Damme, toi.
voilà, pour un grand projet que je ne veux pas nommer, ils sont donc obligés d'augmenter un peu leur indice de bonheur, et donc ils se demandent comment ils vont faire, ce qu'ils vont poster, comment réussir en fait à percer le plafond de verre. Et donc, évidemment, bah, il y a des gens qui sont plus heureux qu'eux, mais enfin, sur les réseaux, hein, pas en vrai, puisqu'on poste vraiment voilà, ce qu'on a envie de montrer aux autres de soi, ce qui est absolument pas la réalité. Et ça, c'est assez acerbe parce que on le sent, on le devine, et voilà. Et donc, ceux qui ont un indice de bonheur plus élevé que le vôtre, eh ben, en fait, il faut un petit peu les éliminer pour leur passer devant. Donc, on voit comment la fissure, en fait, de tout le monde est beau, tout le monde est gentil, ce monde est merveilleux, et les réseaux, c'est tellement chouette. Ça commence à se craqueler un petit peu. Et il y a des choses qui vont se passer dans ce monde merveilleux qui font un petit peu froid dans le dos. Et donc, c'est vraiment 400 pages oui, c'est 400 pages de régalade parce que il a inventé vraiment tout un univers avec bah, tout ce qu'on peut imaginer de comment on vivra, quels seront les outils à notre disposition en 2084, comment les réseaux sociaux vont prendre une place encore plus importante parce que bon, ils puisent dans le réel hein, quand on voit ce qui se passe. Ce qui est posté tous les jours, enfin, vous devez voir vous aussi dans votre fil, hein, c'est assez édifiant. Et quand on connaît la vie des gens, on se dit, bah, tout est relatif. Et il y a aussi cette critique de il faut être heureux à tout prix. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'ouvrages sur comment être plus heureux, comment s'améliorer, comment être une meilleure version de soi-même, comment arriver au bonheur, comment enlever toutes les émotions négatives et transformer en positif. Donc, il y a toute cette critique, en fait, des livres de développement personnel, hein, c'est clair, parce que ce truc-là, je comprends pourquoi j'arrive pas à en lire, parce que c'est vraiment, je trouve ça tellement nunuche que... Non, mais je trouve ça vraiment nunuche, hein. Je suis en train d'en écouter un, c'est pas possible, hein. C'est vraiment pas possible, les clichés. Et donc, je pense qu'il a pris lui aussi un pied pas possible à écrire ce truc. Et cet enthousiasme se transmet vraiment au lecteur parce que moi, j'ai adoré ce livre, quoi. C'est un moment de lecture, mais vraiment génial. Donc, l'imaginaire, toute puissance à l'imaginaire, moi, ces auteurs qui inventent des mondes, mais de A à Z, et qui réfléchissent à comment ça pourrait être demain, etc., sans tomber forcément dans le catastrophisme comme Hervé Lecor ou voilà, des auteurs qui voient les choses un peu plus de façon un peu plus noire. Ben, je trouve qu'ils ont une puissance d'imagination qu'il faut saluer parce que c'est génial, quoi. Donc oui, je me penche sur la littérature de l'imaginaire parce que je trouve ça vraiment passionnant. Et ça, j'ai oublié de le dire, c'est quand même très important parce qu'on est quand même dans bipolar. Il a construit en fait son bouquin avec tous les codes du thriller. puisqu'il y aura un meurtre, il y aura, enfin, il y a tous les codes du thriller et du roman d'anticipation mélangé, et il s'en sort super bien, quoi. C'est vraiment très très bon.
Je suis rassurée, j'avais peur qu'il n'y ait pas de mort.
Ah, si, il y
Quand
a
même.
mort,
Ça va
rassure-toi,
alors.
il y a mort.
Ce serait triste autrement.
Et pour la science-fiction et la fantasy, j'ai deux, trois idées. Mais en tout cas, ça s'appelle Tout est sous contrôle et je salue parce que c'est chez nos camarades du Diable Vauvert. Voilà, c'est
Oui.
une petite maison d'édition avec notamment Marion Mazory qui est assez formidable. Bon, bah, ok, Tout est sous contrôle de Christopher Wicks. De toute façon, on le sait, hein. En termes de développement personnel, pour avoir du bonheur, il faut simplement écouter un certain goût pour le noir, le Club 100. Hein?
La base.
On est d'accord, voilà,
La
la
base,
base.
on est
Oui.
d'accord.
Et la base, voilà. On va vous souhaiter donc beaucoup de bonheur. Je vous souhaite beaucoup de bonheur pour ces 4 semaines à venir.
On va
Merci.
essayer d'être la meilleure version de
Évi évidemment,
nous-mêmes.
évidemment. Hein, je crois
Tant qu'il y a des
que.
morts, c'est bon.
Ouais, t'as raison. Éliminons les gens heureux.
Oui, voilà,
Merci.
ça sert à rien.
Merci beaucoup à tous les quatre, hein, et puis on se retrouve d'ici quelques semaines. Merci à vous qui nous avez écoutés. J'espère que vous avez tout bien noté. De toute façon, on mettra tout dans le descriptif de ce podcast. Et puis on se retrouve très vite avec une nouvelle émission d'un certain goût pour le noir. Il y a plein de choses chouettes qui arrivent, et notamment la retransmission des interviews qui ont été faites à Quai du Polar. Allez, bonne journée à tous et à toutes, et à très vite.